Chapitre 3. René Leblanc, le notaire, était de haute taille, légèrement courbé par l'âge. Ses cheveux blancs, son front découvert, ses petites lunettes rondes, lui donnaient l'aspect d'un vieux. Il était le père d'une famille nombreuse, et son plus grand bonheur était d'être entouré de ses petits-enfants, qui adoraient chevaucher sur ses genoux. Pendant les dernières guerres, il avait été soupçonné d'être un partisan de l'Angleterre et emprisonné pendant 4 longues années dans un vieux fort français. Cette captivité l'avait rendu extrêmement prudent, mais il avait toujours conservé la simplicité d'âme d'un enfant. Il était d'une patience à toute épreuve et son esprit était aussi droit que sincère. Tout le monde l'aimait, principalement les petits, auquel il aimait raconter les contes et les légendes des temps passés. Personne, mieux que lui, ne connaissait toutes les traditions du village. Une fois le notaire assis, Basile le forgeron se leva de son siège, vint près de lui, puis lui demanda « Père Leblanc, tu as dû entendre ce qui se dit dans le village. Sais-tu quelle est la mission des navires anglais arrivés dans le port ?» À ces paroles, Leblanc répondit d'un air modeste. « Sans doute, j'ai entendu pas mal de rumeurs. Mais je n'en sais pas plus, et j'ignore tout autant que les autres quelle peut être la mission de ces navires. Par ailleurs, je ne suis pas de ceux qui croient qu'ils ont de mauvaises intentions. Car nous sommes en paix. Pourquoi les Anglais viendraient-ils nous inquiéter ?»« Mon Dieu !» s'est alors exclamé le forgeron. « Mais pourquoi chercher le pourquoi, le comment ? Chaque jour, on voit des injustices. » Chaque jour, on voit que le plus fort impose son pouvoir, et c'est souvent le pouvoir du plus fort qui gagne, et non la justice. Sans s'offenser de cette vive réplique du forgeron, le notaire poursuivit alors. L'homme est injuste, c'est vrai, mais la justice finit toujours par triompher des méchants. Le forgeron restait muet. Il n'était pas convaincu. Il voulait parler, mais il ne trouvait pas de mots pour s'exprimer. Ses pensées paraissaient figées sur son visage. À ce moment, Évangeline alluma la lampe qu'elle posa sur la table. Puis, elle remplit les verres d'une bière brune brassée à la maison et renommée dans tout le village de Grandpré. Le notaire avait tiré de sa poche ses papiers et son écritoire, et il écrivit d'une main sûre les noms et l'âge des fiancés. Tout était réglé. Bénédicte déposa alors les honoraires du notaire sur la table. Celui-ci se leva et félicita les jeunes fiancés. Puis, il leva son verre et but à leur bonheur. Ensuite, il salua tout le monde et partit, alors que les autres restaient assis au coin du feu, l'esprit agité par leurs pensées. Enfin, Évangeline alla chercher le jeu de dames, et aussitôt, Bénédicte et Basile commencèrent leur partie habituelle. Les deux vieillards riaient beaucoup, à chaque coup de chance ou de malchance. Pendant ce temps, Évangeline et Gabriel, assises à la fenêtre, échangeaient à voix basse de douces paroles et s'entretenaient de leurs projets d'avenir, éclairés par la lumière de la lune qui se levait sur la mer. Ainsi s'écoula cette heureuse soirée où ces deux cœurs s'étaient unis pour toujours. À ce moment-là, la cloche sonna 9 coups. Il était tard. Basile et son fils se levèrent pour partir, et la maison devint silencieuse. Longtemps, sur le seuil de la porte, Gabriel et Évangeline échangèrent de doux bonsoirs et de tendres adieux qui remplissaient de joie le cœur d'Évangeline. La jeune fille, avant de rentrer, écouta pendant quelque temps les pas de son fiancé qui s'éloignait lentement. Puis elle rentra. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à l'intérieur de la ferme, Évangeline alla dans sa chambre. Évangeline éteignit bientôt sa lampe. Son cœur alors se gonfla et ses pensées se portèrent vers son fiancé. Malgré elle, un sentiment de tristesse envahit son âme, comme ces nuages qui, par moments, viennent voiler la clarté de la lune. Elle était loin de se douter que Gabriel, en bas, caché sous les arbres du verger, avait suivi longtemps d'un œil anxieux, ou son ombre ou la clarté de sa lampe. Elle regarda quelque temps, rêveuse et pensive, par la fenêtre. Puis elle se coucha, toujours poursuivie par la même pensée.